Hubert Haenel, vous vous définissez vous-même comme d'abord un juriste qui a fait et qui fait toujours de la politique. C'est exact ?
C'est tout à fait exact. C'est ma formation première. Ça fait partie de mon éducation, de mon expérience. Et si j'ai pu faire un certain nombre de choses en politique, c'est parce que d'abord, j'étais un juriste, magistrat de l'ordre judiciaire, puis membre du Conseil d'État, professeur associé à l'université d'Aix-Marseille 3, professeur de droit, voilà.
Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette carrière dans le droit ?
Au départ, je voulais faire Saint-Cyr, parce que c'est aussi un certain engagement. Et puis, les jésuites m'ont dit, mon petit Hubert, tu te trompes. Toi, tu crois aller dans les compagnies sahariennes, tu crois aller en Afrique, tu vois, c'est terminé. Tu vas te retrouver dans une caserne et tu vas t'ennuyer comme un rat mort. Donc, mon deuxième engagement, c'était de devenir magistrat, juge. Donc, j'ai pas fait du droit par hasard, en sachant pas trop ce que j'allais faire à la sortie de la faculté de droit. Je me suis engagé. Et donc, autant j'étais pas très bon dans le secondaire, autant sachant ce que je voulais faire à l'université, disons, j'ai été très bon.
Vous avez été très bon et je crois aussi qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup formé, ce mouvement du scoutisme.
Ah oui, tout à fait. J'ai été scout, comme j'étais pas très discipliné, les cheftaines m'ont fait monter à la troupe, comme on disait, parce que j'étais vraiment un louveteau turbulent et je suis resté. Et les jésuites, ça c'était pour moi un grand honneur, m'ont confié la direction de la troupe scout du collège Saint-Clément et j'ai été chef scout jusqu'à la fin de, quasiment de mon service militaire jusqu'au moment où je suis rentré à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux.
Et cette expérience du scoutisme aujourd'hui, qu'est-ce que...
La responsabilité, responsable. Qu'on soit second, chef de patrouille, assistant ou chef, on était responsable. Vous vous rendez compte, j'avais 20 ans, on me confiait pour le camp d'été, tout ce monde-là, et j'étais seul responsable. J'avais un aumônier. Et il me disait, Hubert, jamais je ne me substituerai à toi. C'est toi le responsable. Il me laissait devant mes responsabilités. Et ça, ça a été une expérience inouïe pour ma vie entière. Et encore aujourd'hui, je suis reconnaissant au scoutisme. D'ailleurs, je suis reconnaissant à tous ceux que j'ai eu la chance de côtoyer parce que ce sont eux qui m'ont formé. Ça a été ma matrice quoi, de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Et si j'ai pris des engagements par la suite sur le plan politique, c'est parce que on m'a toujours dit ce que tu as reçu à un moment donné, tu dois le donner à ta manière. Et quand mon prédécesseur à la mairie de la Poutra, où j'étais maire pendant 24 ans, le docteur Burel a dit « j'arrête, il me faut un successeur, vous y allez ». J'ai beaucoup hésité, c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais prendre des responsabilités comme directeur, directeur général dans un ministère. J'ai dit « bon, Hubert, tu dois y aller ». Donc je suis devenu maire, puis de maire, quelques temps plus tard, je suis devenu sénateur, parce que je me disais « ça peut pas continuer comme ça, faut faire bouger les lignes ». Peut-être naïvement, j'ai cru qu'en franchissant le pas, j'allais changer beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai changé beaucoup de choses.
Quelles lignes vous vouliez faire bouger ?
Faire bouger les lignes, c'est-à-dire d'abord être à l'écoute des gens. À proximité, dans tout le sens du terme, avec les gens. Prendre chaque individu, je veux dire, pour une personne, avec sa spécificité, sa vérité. Quand j'ai été nommé au Conseil constitutionnel, j'ai reçu des lettres extraordinaires de gens simples auxquels j'avais rendu service à 40, 50 ans. Ou même de mes anciens scouts, ou même de mes anciens à l'armée, j'étais sous-lieutenant, des jeunes qui étaient avec moi dans ma section, et qui m'ont dit, tu te souviens peut-être de nous, tu te souviens peut-être pas, etc. Ce lien très fort avec les personnes, ça c'est pour moi, ça a été fondamental.
C'est l'autre grand point, la responsabilité, la proximité avec les autres.
La proximité, oui. Il faut avoir quelque chose en soi qu'on vous a donné pour pouvoir avoir ce contact. Il y en a qui l'ont. C'est pas le contact superficiel comme on voit à la télé ou qu'on entend à la radio. Ça, c'est du cinéma. C'est authentique. Une personne face à une autre personne. Donc, je dis toujours, on a des responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'on est supérieur aux autres. C'est une hiérarchie des fonctions. Mais moi, je suis le même que telle femme, tel homme, tel enfant, etc. Et ce que j'ai essayé de faire quand j'étais maire, mais au-delà, c'est animer, donner une âme, donner à un village un esprit de communauté. Je disais toujours, pour définir ce que j'étais comme maire, ce n'est pas un administrateur, un gestionnaire. Le maire, c'est d'abord un constructeur au sens romain du terme, c'est-à-dire qu'il fait des choses solides. C'est un bâtisseur de cathédrales. Je suis responsable du temps présent, mais pour les temps qui viennent. Je suis donc un chef de communauté, en reprenant Antoine de Saint-Exupéry, qui disait « Mon territoire, ce ne sont pas seulement ces chèvres, ce désert, ces maisons, cette ouède, etc. » Moi, j'ajoute, ces rues, ces vignes, cette église, cette mairie, cette usine, mais ce qui les transcende et les noue. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de fondamental, de vital, au sens premier du terme.
Proximité, responsabilité, animation qui vous ont emmené aussi vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui est l'Europe.
Dans ma vie, j'ai eu la chance, pendant plus de 10 ans, d'être président de la Commission des affaires européennes du Sénat et, chance supplémentaire, d'être pas un fondateur, mais un refondateur, puisque j'ai fait partie de la première convention chargée d'élaborer la Charte des droits fondamentaux. Fantastique. Et ensuite, membre de la Convention chargée d'élaborer le traité constitutionnel, où je retrouvais mon ancien patron, Valéry Giscard d'Estaing, et un de mes anciens condisciples à l'Élysée, Alain Lamassoure. Et j'ai essayé qu'on s'interroge et qu'on réponde à des questions qui me paraissent fondamentales. Elles sont valables pour une personne, pour une famille, pour une communauté. Qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? Qui sommes-nous, nous les Européens? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi on est ensemble? Ça, c'est fondamental. Pourquoi on est ensemble? Pourquoi faire? Et comment le faire? Or, on commence souvent par la fin, comment faire les choses, alors qu'on ne sait pas qui on est. Par exemple, un sujet qu'on n'a jamais osé aborder à l'époque, l'Europe a-t-elle des frontières? Quelle est la nature de ces frontières? Ça, c'est des sujets que malheureusement, on n'a pas pu oser, je ne sais pas quoi, aborder dans les deux conventions, finalement. Parce qu'on ne les a pas abordés, donc parce qu'on n'y a pas répondu, eh ben, on traîne toujours ça avec nous. Et notamment sur patrimoine, héritage, religieux, gréco-romano-judéo-chrétien, on n'a jamais osé trancher.
Comment vous voyez l'avenir par rapport à cette Europe?
L'Europe s'est tout de même rassemblée. Comme je disais à mes collègues des pays dits de l'Est, ce n'était pas un élargissement de l'Europe, c'était la réunification de l'Europe. Ce sont des personnes, des États, des nations qu'on avait laissées tomber au moment où s'est constitué le rideau de fer avec les accords de Yalta. Alors évidemment, aujourd'hui, ils ne nous ressemblent pas. Mais comment voulez-vous qu'ils nous ressemblent? On les a laissés tomber pendant 50 ans. Ils ont été sous joug communiste et ils reviennent vers nous, les gens dans la rue, etc., disent mais ils ne sont pas tout à fait comme nous. Ils ne sont pas tout à fait comme nous dans notre façon peut-être de vivre, mais ils ont le même héritage. Ils partagent les mêmes valeurs. Puisque quand on gratte à nouveau, on retrouve les valeurs fondamentales, fondatrices de l'Europe, des fondateurs, mais de l'Europe, j'ose presque dire, de toujours. Je regrette une chose, c'est que dans le traité de Lisbonne, c'est qu'on n'ait pas repris une magnifique devise de l'Europe, c'est « uni dans la diversité ». Et ça aurait répondu à tous ceux qui disent « l'Europe est en train de nous niveler, banaliser, etc. » Non, ce qui fait la richesse, c'est la diversité des regards. Et donc, sur l'Europe, il y a des regards croisés. Les Finlandais sont européens, ils ne ressemblent pas aux Espagnols, loin de là, pas seulement parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même soleil au même moment. Mais on sent bien, quand on circule, y compris, par exemple, dans les Balkans, on est en Europe. On est content, quand on va dans un de ces pays-là, d'avoir quelque chose qui est différent de nous, avec cependant des fondations communes, une source commune. Je dis souvent, pour les deux conventions auxquelles j'ai participé, c'était, il fallait, comme une source qui s'est perdue dans les sables, il fallait les gratter et retrouver le cœur de la source. Et ça, on ne l'a pas fait. Et parce qu'on ne l'a pas fait, les gens s'interrogent, me disent, finalement, votre Europe, elle sert à quoi? À quoi ça sert d'être ensemble? C'est pas seulement pour donner du pain et des jeux aux gens, c'est pour dire, on a un destin commun et on a un avenir commun. Alors vous allez me dire, mais comment peut-on tourner à 27? On ne pourra pas avancer tous sur les mêmes sujets ou même pas. Il faudra une Europe différenciée. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont d'accord pour avancer plus vite que d'autres, mais ils laissent ouverte la porte. À tout moment, tel ou tel pays qui n'était pas mieux, qui n'était pas prêt, va pouvoir rejoindre. Parce qu'il aura vu et constaté que les pays qui ont avancé, par exemple sur Schengen, sur l'euro, etc., eh bien pour eux, c'est un progrès. Ce pays-là va vouloir à un moment donné les rejoindre. C'est l'Europe de la différenciation.
Vous venez d'être nommé au Conseil constitutionnel et les titres de certains journaux ont parlé de vous comme un sage.
J'ai reçu d'une personne très simple récemment, dans le cadre de félicitations, il avait fait des recherches, je ne sais pas. Un sage, c'est quelqu'un qui se rapproche de Dieu et qui rapproche les autres de Dieu et qui se rapproche et qui rapproche les autres de ses prochains. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal comme définition du sage. Le sage, c'est ça, c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui relativise aussi, et puis qui prend de la distance et de la hauteur. On devient sage aussi au contact des autres, puisqu'on est 9 plus 2, 9 membres. ordinaire entre eux et deux anciens présidents de la République. Notre travail est fondamentalement un travail collégial. Je réapprends ce que c'est qu'un délibéré, d'écouter le point de vue de l'autre qui vous fait bouger. Parce qu'il faut l'écouter, le point de vue. Il ne suffit pas de camper sur des positions. La collégialité, le délibéré, c'est ça.
Quand vous regardez les différentes fonctions que vous avez eues au cours de ces 30 dernières années, quels ont été les plus grands moments ?
Dans ma mairie, là, on n'est pas voyant, on est dans le secret, parfois même des consciences. Moi, j'ai entendu des choses inouïes dans mes fonctions de maire. J'ai connu la mairie, le terrain et l'Élysée. Alors là, on est au cœur du dispositif régalien, de la souveraineté de l'État. Et ça, c'était aussi... J'étais un gamin, 32 ans, président Giscard d'Estaing. Quand il a décidé de me faire venir à l'Élysée, il ne m'a pas demandé si j'avais la carte du parti, contrairement à ce qu'on peut croire. Il m'a surtout dit, je vous demande deux choses, de jamais parler en mon nom, et n'attendez pas que je vous remercie, car vous servez la République.